veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer.
Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Ce gars-là est allé jusqu'à obtenir des informations sur toi. S'il est fort, il pourrait accéder à tout.
C'est exactement ce dont j'ai besoin. Un site sécurisé où je peux laisser ce virus évoluer à sa guise.
Just a regular cybersecurity engineer. But I'm a vigilante hacker by night.
Qu'est-ce qu'on obtient ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les dimanches de ce mois de juillet, France Culture vous propose un voyage en territoire informatique. Non content d'avoir bouleversé nos existences quotidiennes, nos manières de travailler, de penser, de communiquer, l'informatique a aussi profondément modifié les pratiques scientifiques et artistiques. Elle est partout, ou presque, notre monde est devenu numérique. Ce constat réjouit les uns et désole les autres, et il n'est pas toujours facile de ne pas tomber dans l'un ou l'autre des deux pièges suivants, s'enthousiasmer béatement ou fuir en s'affolant. Gérard Berry, professeur au Collège de France où il occupe la chaire Algorithmes, Machines et Langages, compte parmi ceux qui nous aident à éviter les embûches. C'est pourquoi nous lui avons demandé de nous accompagner pour ce parcours d'été à travers 4 émissions au cours desquelles il a souhaité dialoguer avec des chercheurs et créateurs d'aujourd'hui qui nous permettront d'éclairer quelques-uns des enjeux contemporains de la discipline. Si les ordinateurs sont partout aujourd'hui, l'humanité n'est pas née avec une souris dans la main. Pour comprendre ce que l'informatique change à nos vies, il n'est sans doute pas inutile de commencer par rappeler quelques-unes des grandes étapes qui ont construit son histoire. C'est ce que nous ferons aujourd'hui avec vous, Gérard Berry, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Pierre Mounier-Kuhn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et venez de faire paraître une éclairante et ludique histoire illustrée de l'informatique aux éditions EDP Sciences. Une question d'abord, je parle là de l'histoire de l'informatique, mais en fait, il serait plus juste de parler des histoires de l'informatique. Il y a plusieurs domaines en fait qui sont concernés dans cette histoire.
Oui, il y a plusieurs domaines et il y a plusieurs approches. En effet, plusieurs histoires de l'informatique. On peut centrer l'histoire de l'informatique sur l'histoire des matériels ou sur l'histoire du logiciel ou sur l'histoire de l'émergence et de la construction d'une science informatique. Et on peut croiser des regards très différents en s'intéressant à l'impact social de l'informatique et aux raisons socio-économiques que les humains ont eu de développer des systèmes de traitement de l'information depuis des siècles. On peut s'intéresser à l'aspect militaire. Il y a des cas dans l'histoire où des matériels de traitement de l'information ont fait basculer la victoire d'un camp dans un autre. Et il y a bien sûr une histoire proprement technique, une histoire proprement scientifique. Il y a aussi même une histoire politique de l'informatique. Pourquoi, par exemple, les gouvernements actuels et les gouvernements depuis une cinquantaine d'années ont poussé vers le numérique, vers l'emprise de l'informatique et l'extension du numérique.
The Thinking Machine.
Hello again. With me tonight is Professor Jerome B. Wiesner, Director of the Research Laboratory of Electronics at MIT. Dr. Wiesner, what really worries me today is what's going to happen to us if machines can think. And what interests me specifically is, can they?
Well, that's a very hard question to answer. If you'd asked me that question just a few years ago, I'd have said it was very far-fetched. And today, I just have to admit, I don't really know. I suspect if you come back in 4 or 5 years, I'll say, sure, they really do think.
À l'instant, un extrait d'un petit documentaire diffusé à la télévision américaine au début des années 60, on entend le ton caractéristique de cette époque, était consacré aux machines qui pensent, the thinking machine. Bien avant la création de l'ordinateur personnel, on se demandait déjà si une intelligence artificielle, thème très à la mode aujourd'hui, était possible. Autrement dit, si les machines pourraient penser, ce à quoi le directeur du département d'électronique du MIT qu'on entendait répondait résolument oui, et il n'avait pas tort. On était donc dans les années 60. Ce qu'il faut dire peut-être d'emblée, Gérard Berry, c'est que l'une des particularités de l'informatique comme science, hein, comme discipline, est qu'elle est au fond toute jeune.
Elle est jeune, mais elle a des ancêtres. Il y a le calcul. Le calcul est très très ancien. Il date d'avant l'écriture. On a appris à compter avant de savoir écrire. On a même appris à écrire pour savoir compter assez largement. Et donc, le calcul a été développé depuis très longtemps, le calcul mathématique, mais humain. L'idée de le mécaniser a été aussi en germe pendant longtemps. Ben, les bouliers, les abacs, tout ça, ça servait à ça. Et puis, il y a eu des machines mécaniques comme Pascal, Leibniz, le multiplier de Leibniz, l'additionneur de Pascal, l'analyseur différentiel de Babbage qui n'a jamais été construit. Et puis, la mécanographie qui a fait quelque chose. Mais, disons, la grande rupture, c'est Alan Turing, 1936, dans un papier extraordinaire. Il a fait beaucoup de papiers extraordinaires dans sa vie, où il a introduit vraiment le concept de machine à information. Il a tout de suite défini la machine la plus simple qui soit et montré ses limites, montré qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et d'autres chercheurs comme Alan Dutchurch, qui travaillaient en même temps, avaient inventé un formalisme pour fonder les mathématiques qui s'appelait lambda calcul. La machine de Turing n'a jamais servi à rien, elle n'était pas faite pour, mais elle a servi à poser le cadre conceptuel. Une machine hyper simple peut tout faire, elle est universelle. Et de plus, on peut écrire des programmes dedans qui sont enregistrés. Et le lambda calcul, c'est l'ancêtre des langages de programmation modernes. Donc 1936.
On reviendra sur les années 30 et le rôle de Turing, mais peut-être vous avez mentionné le fait qu'en fait, il faut remonter à l'Antiquité. En fait, donc, l'histoire de l'informatique, ça commence avec l'histoire du calcul, et c'est bien antérieur à l'histoire de l'écriture, Pierre Mounier-Kuhn.
Ça commence avec l'histoire du calcul et aussi avec l'histoire de l'écriture, puisqu'il ne s'agit pas seulement de calculer sur des chiffres, mais de traiter de l'information. Et c'est pour ça que notre livre remonte aux tablettes cunéiformes de Sumer. En gros, notre livre balaye toute l'histoire, il se veut global. Il balaye l'histoire du calcul ou du traitement de l'information depuis les tablettes cunéiformes sumériennes jusqu'aux tablettes numériques que nous avons dans nos sacs et sur nos bureaux et dans nos mains. Et il se veut global parce que nous avons voulu, avec Emmanuel Lazare, rompre avec les livres déjà assez nombreux qui existent sur l'histoire de l'informatique, qui sont généralement centrés sur les États-Unis, avec un chapitre ou deux sur l'Angleterre, et c'est à peu près tout. On a voulu faire un livre qui reflète vraiment la nature désormais globale de l'informatique, du numérique, en montrant ce qui s'est passé, bien sûr, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui ont joué des rôles pionniers, mais aussi en Allemagne, qui a également joué un rôle pionnier, en URSS, où on ne le sait pas assez, les premiers ordinateurs de l'Europe continentale ont été construits, et dans des pays plus lointains, en Extrême-Orient, qui ont pris la main à partir des années 70, ça a été l'émergence des petits dragons asiatiques. Donc c'est un livre qui ne parle pas seulement de technique ou de science, mais qui met aussi les progrès techniques et scientifiques dans leur contexte économique. Donc c'est aussi un livre d'histoire économique et sociale.
Oui, c'est vrai que c'est une surprise quand on ouvre ce livre dans le sommaire. Une histoire de l'informatique, moi je m'attendais bêtement peut-être à ce que ça commence dans les années 30 au plus tard. Et le premier chapitre, c'est l'Antiquité. Et la première date, c'est je crois 4000 ans avant Jésus-Christ, Gérard Berry.
Oui, mais il y a eu toute cette époque, mais il y a quand même quelqu'un qui a joué un rôle absolument central, donc qui est à la fin du 8e siècle, qui s'appelle Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi était un grand savant persan qui a importé, c'est lui qui a importé ce qu'on appelle les chiffres arabes. Il était persan, mais il écrivait en arabe, et les chiffres arabes venaient d'Inde, parce que les mathématiques sont nées fondamentalement en Inde. Dans les années 200, on savait déjà tout des nombres négatifs. Et Al-Khwarizmi joue un rôle important pour deux raisons. D'abord, il a donné son nom à algorithme. Enfin, c'est pas lui qui l'a donné. Mais lui, il a donné un autre nom qu'on n'enseigne jamais à l'école, ce qui est aberrant. C'est Al-Jabr. Al-Jabr, c'était un traité qu'il a écrit sur la solution des équations et qui a donné le mot algèbre. Donc, Al-Khwarizmi est aussi un des grands fondateurs. Donc, les algorithmes, il comprenait parfaitement ce que c'était. Il n'avait pas les machines, mais il avait les algorithmes. Et c'est Léonard de Pise dit Fibonacci, autre personnage connu, qui, vers 1240, a importé les écrits de Al-Khwarizmi en Europe. L'Europe avait un retard considérable à l'époque.
C'est terrible parce que Gérard Berry peut parler d'histoire, alors que moi, je serais bien incapable de jouer son rôle à lui.
Pierre Mounier-Kuhn, le terme même de calcul, c'est un terme romain, je crois.
Il fait allusion à la matérialité du calcul, puisque calculi, c'est les petits cailloux que les gens de l'Antiquité disposaient sur des abacs, sur des tables, pour faire des calculs. On retrouve une autre façon de calculer de cette manière dans les bouliers, où c'est plus des petits cailloux, c'est des perles de bois qui glissent sur des tiges.
Mais en fait, ça veut dire que les abacs, en l'occurrence romains, c'était déjà des petits, un ancêtre du boulier, c'était des machines à calculer.
Ça fonctionnait globalement sur le même principe. C'était des aides au calcul, c'était pas des machines, c'était des aides au calcul, de même que l'écriture.
Donc au fond, l'ancêtre ou le père peut-être de l'ordinateur, ce serait la machine à calculer. Au XVIIe siècle, en Europe, plusieurs savants essaient d'en construire. Hein. Vous l'avez dit, Gérard Berry, on peut citer Leibniz, Pascal, vous l'avez fait. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la Pascaline ?
Pascaline, c'est une machine à faire des additions mécanique, qui était un peu trop compliqué pour arriver à être vraiment fiable. Mais Pascal, c'est ancien, hein, faut se rappeler. Donc c'était une machine à faire des additions, simplement avec beaucoup de chiffres. Alors, il y a une grande différence entre ces machines et l'ordinateur. Et je la raconte très simplement, en général. Par exemple, il y a eu des additionneurs mécaniques jusqu'à les années 70, mais elles avaient toutes des manivelles, manuelles ou électriques. La différence, c'est que l'ordinateur a avalé la manivelle. Et ça, c'est l'idée de Turing, la manivelle devient quelque chose qui est faite par l'ordinateur. C'est l'ordinateur lui-même qui tourne sa propre manivelle. Donc ce ne sont plus des machines dirigées par les hommes. C'est ça la grande différence.
Pierre Mounier-Kuhn, Pascal d'abord, Leibniz ensuite repart, je crois, de cette machine.
Oui, Leibniz met au point une machine plus perfectionnée à multiplier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre ces inventions dans leur contexte. Vous avez l'invention de Pascal et puis quelques années avant l'invention d'un astronome allemand qui s'appelait Schickard qui invente une première machine qui a disparu. Mais pourquoi ces hommes inventaient des machines ? Le père de Pascal était receveur des impôts dans l'administration royale. Et Pascal inventait une machine pour aider son père à passer moins de nuits blanches sur ses calculs d'assiette fiscale. C'est aussi bête que ça. Donc la machine est conçu comme un élément d'une administration d'État en plein essor, d'une bureaucratisation de la société, d'une organisation de plus en plus rationnelle, entre guillemets, des sociétés modernes. Donc elle est liée au pouvoir. Le calculateur mécanique de Schickard, qui était un astronome allemand qui correspondait avec Kepler, devait servir à faire des calculs d'astronomie. Et c'est la même chose pour Leibniz. Donc on a deux phénomènes qui dépassent de loin l'histoire purement technique du calcul, c'est la naissance des états modernes et c'est la mathématisation des sciences qui elle-même remonte à Galilée. On a esquissé les contours, donc les prémices dans l'Antiquité et à l'époque moderne de la science du calcul pour commencer ce parcours de l'histoire de l'informatique. Il faut maintenant tâcher donc de dater la naissance de la science informatique proprement dite. Vous l'avez fait en introduction, Gérard Berry, vous avez évoqué l'importance de cette date de 1936. Pierre Mounier-Kuhn, pourquoi est-ce que 1936, c'est un basculement ? C'est le Front populaire.
Certes, je voulais dire dans l'histoire de l'informatique.
Je sais bien, mais avant de répondre à cette question très difficile, je voulais vous remercier d'avoir choisi cette musique pour illustrer l'émission. Il s'agit de Psyché Rock, une musique de Pierre Henry, qui est un compositeur contemporain. La musique, je crois, date de 1967. Et si vous allez sur YouTube ou sur Dailymotion ou un autre site, et que vous tapez Psyché Rock Pierre Henry, vous verrez l'extraordinaire clip vidéo qui est sans doute le premier clip vidéo rock de toute l'histoire. Donc c'est aussi un phénomène médiatique. Et ça m'amène à attirer l'attention sur le lien très ancien qu'il y a entre l'informatique et l'art, entre l'informatique et les arts, entre l'informatique et les jeux aussi. Car le jeu a toujours constitué, notamment dans ce domaine, un facteur d'innovation considérable. C'est en voulant jouer avec des ordinateurs, au lieu de leur faire faire du calcul, pourquoi les informaticiens étaient payés, que certains informaticiens ont fait avancer, notamment dans le domaine du temps réel, en essayant de jouer de la musique. Dès les années 50, il y avait des ingénieurs qui s'amusaient à faire jouer de la musique, par exemple en utilisant le bruit que faisaient les imprimantes d'ordinateur et en faisant sautiller en cadence les bandes magnétiques. En général, ils faisaient ça par hasard 5 minutes avant une visite officielle et donc ça faisait pas toujours très bon effet, mais ça leur a permis de créer des concepts nouveaux, le jeu. Et on peut remonter très loin dans l'Antiquité. Quels sont les premiers automates? C'est pas des machines-outils, c'est des automates pour jouer, pour amuser des seigneurs et des princes dans des cours en Orient et dans l'Empire romain.
Et alors la date de 1936,
c'est l'écriture de l'article d'Alan Turing sur ce qu'on appelle aujourd'hui la calculabilité. Il faut bien se rendre compte que c'est un article qui n'a eu aucun impact. C'est un article qui relève de la logique mathématique, il ne s'occupe pas du tout de machines. C'est un article qui résout un problème fondamental concernant les fondements des mathématiques et qui n'a pas été lu par l'immense majorité des gens qui s'occupaient de machines à calculer.
Aucun impact à l'époque.
Pendant 20 ans, aucun impact à l'époque. Turing a ensuite travaillé sur d'autres sujets dans la cryptanalyse et il a fait des machines, mais qui n'étaient pas des machines de Turing au sens informaticien. Et c'est seulement à la fin des années 50, au début des années 60, que les informaticiens ont commencé à découvrir Turing et plus généralement la logique mathématique et qu'ils sont servis pour établir les bases d'une nouvelle science. Non seulement parce qu'ils avaient besoin de comprendre, mais parce qu'ils avaient besoin d'enseigner. Et les théories de Turing, notamment, fournissaient un contenu formel à un enseignement qui, jusque-là, était beaucoup trop technique. Il y a une autre chose qu'on peut souligner en 1936, c'est que c'est la montée en puissance du nazisme, des menaces militaires de l'Allemagne hitlérienne, et qu'on commence assez rapidement, dans les pays occidentaux, à se réarmer, plus ou moins rapidement. Et une partie du réarmement porte sur les moyens de cryptanalyse et surtout les moyens de calcul pour faire des calculs balistiques, pour calculer des avions plus performants, pour pouvoir résister à la machine de guerre hitlérienne. Et c'est cet énorme effort matériel, financier, scientifique et technique qui va permettre au concept très abstrait de Turing de prendre corps, de devenir des réalités, et des réalités massives qui auront un résultat décisif sur l'issue de la guerre.
Oui, Turing lui-même, il faut le rappeler, a eu un rôle assez décisif pendant la Seconde Guerre mondiale, Gérard Berry.
Oui, il a participé énormément au décodage du code allemand Enigma, parce que Turing était aussi, il faisait de la cryptanalyse, donc on en reparlera dans une émission ultérieure. Et oui, ça a été très important. Alors, il est vrai que le papier de Turing n'a pas eu un impact immédiat, sauf que quand même la notion de programme enregistré qui était dedans a été assez rapidement adoptée, et elle change tout. Elle change tout. C'est-à-dire que le fait de mettre que le programme, la machine soit universelle, ça a changé les esprits. Mais parmi le tout petit nombre de gens qui étaient concernés, au début, les gens qui construisaient des ordinateurs, ils étaient bien une douzaine. Donc, mais maintenant, il est certain que ce papier est complètement fondateur. Celui de Church aussi, d'autres. Shannon, dans les années 50, a inventé la théorie de la communication.
Mais on y reviendra. Mais on parle en effet de machine universelle. Pourquoi ce terme universel?
Alors, la machine universelle, c'est que si on regarde une machine mécanique fait une chose. Un vélo, ça va sur les routes et puis c'est tout, ça va pas dans les champs. La machine de Turing sait tout faire. C'est une machine hyper simple et au niveau traitement de l'information, il y a deux choses importantes. La machine de Turing, ou n'importe quelle autre machine d'ailleurs, est capable de faire tous les calculs qu'on peut faire. Pas tous les calculs qu'on veut faire, c'est autre chose, tous les calculs qu'on peut faire. Et la thèse de Church encore lui, dit « mais il n'existe pas de machine qui fasse plus que ça ». Donc cette petite machine stupide ou n'importe quel ordinateur de n'importe quelle marque, n'importe quel ordinateur que vous achetez, ils sont tous équivalents, ils savent tous tout faire. Et ça n'existe pas dans aucun autre secteur. Il n'y a pas de machine mécanique universelle, il y a une machine à information universelle.
Et c'est une question peut-être un peu naïve, mais quand on parle de la machine de Turing, c'est une machine qui a existé concrètement, qui a été fabriquée, ou c'est juste un principe?
Alors c'est un principe, c'est une machine conceptuelle avec une bande, une tête de lecture. C'est la machine la plus bête qu'on puisse faire. Elle est tellement bête qu'on peut l'expliquer à n'importe qui. Faut juste pas s'en servir. Donc on sait la remplacer par d'autres machines efficaces, mais qui sont fondamentalement équivalentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature profonde entre un ordinateur moderne et une machine de Turing. Mais une machine de Turing, c'est une machine pour enfants. Et la grande force de Turing, c'est d'avoir montré qu'une machine pour enfants suffisait. Et ça a été une très grosse surprise. On s'en sert toujours de la machine de Turing, pas pour la fabriquer, mais comme référence intellectuelle.
Vous avez mentionné le nom de Church, il faut peut-être expliquer un peu de qui il s'agit. Alonzo Church, donc
c'est un... Alonzo Church, logicien qui essayait, lui, de comprendre comment on pouvait faire des mathématiques complètement rigoureuses. ce qui est toujours un problème assez ouvert d'ailleurs, et qui a inventé ce langage, l'onde de calcul, qui a relativement échoué à l'époque. Maintenant, il s'est beaucoup amélioré là-dessus. Il a relativement échoué sur la fondation des mathématiques. En revanche, il a été très important pour les langages de programmation. Mais encore une fois, on ne s'en est aperçu que dans les années 1960.
Ces chercheurs étaient précurseurs, mais complètement mis de côté, en quelque sorte, à leur époque. Turing, en tout cas, est mort dans une relative indifférence.
Parce qu'il avait fait ce qu'on lui avait dit, c'est-à-dire de ne jamais parler de sa contribution au code Enigma. On lui avait dit de ne jamais faire ça, il l'a fait. Il a été condamné pour homosexualité, à être castré chimiquement, et on pense qu'il s'est suicidé.
Turing n'a pas cherché à être célèbre. Turing était un personnage réservé, introverti, qui ne cherchait pas à faire carrière. Il aurait pu se poser en inventeur de l'informatique s'il avait, par exemple, écrit un manuel, créé une chaire, créé un laboratoire. C'était un individualiste qui voulait simplement qu'on lui fiche la paix pour qu'il fasse ce qui l'intéressait. C'était un inventeur solitaire, mais au sein d'une université, il a quand même été décoré pour ce qu'il a fait pendant la guerre, même si on n'avait pas le droit de le dévoiler. Il a quand même été un correspondant de l'Académie des sciences anglaise, la Royal Society. Il a réussi à faire des percées extraordinaires. Il y a très peu de savants dans toute l'histoire des sciences qui ont réussi à bouleverser trois domaines en les refondant complètement, le calcul, la logique mathématique et les sciences de la vie, plus poser les bases de l'intelligence artificielle en 1950. Il y a 20 ans, si on avait fait cette émission, on aurait à peine mentionné Alan Turing. On aurait parlé de von Neumann, qui est l'autre grand inventeur de l'ordinateur, à cause du rapport que von Neumann a écrit en 1945, en juin 1945, où il définissait une machine entièrement nouvelle, le calculateur électronique digital à programme enregistré. Turing a, 6 mois plus tard, écrit lui aussi un projet d'ordinateur, qui est le premier grand projet d'ordinateur de l'histoire, mais on parle toujours d'architecture de von Neumann pour désigner, en gros, la structure des ordinateurs qui n'a pas varié schématiquement de 1945 jusqu'à nos jours, même si on les a un peu compliqués.
Autre personnage décisif dans ces années-là, vous avez prononcé son nom, Gérard Berry, c'est Claude Shannon. Qui était-il ?
Alors, Claude Shannon était un chercheur au Bell Laboratories, qui était un des plus grands laboratoires historiques.
Aux États-Unis.
Et il travaillait dans le même laboratoire que les gens qui ont inventé le transistor, mais ils ne se connaissaient pas. À la même époque, le transistor qui a joué un rôle fondamental dans l'informatique et dans la radio. Et donc, Claude Shannon s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait transmettre des messages sur des lignes téléphoniques de façon efficace.
Oui, il faut peut-être dire que le Bell Laboratories, c'est porte le nom de Graham Bell, l'inventeur
c'est le
du téléphone.
C'est le téléphone. Et donc, il se demandait comment on pouvait transporter un message. Et au lieu de faire comme tout ingénieur, d'essayer de trouver la bonne méthode pour, il a dit, il faut commencer par une théorie générale de tout ça. Et il a fait une théorie générale qui s'appelait au début la théorie de la communication, qui s'appelle maintenant la théorie de l'information. C'est peut-être un mot moins précis, parce que l'information, c'est un mot un peu vague, mais la théorie de l'information qui est utilisée partout. Et si vous regardez maintenant vos lignes téléphoniques sur Internet, quand j'étais petit, on passait 10 caractères par seconde. Il y a eu un facteur 10 000 de multiplication sur les mêmes fils. Et ça, c'est la théorie de Shannon et tout ce qui en a été fait après. C'est une théorie extrêmement profonde qui est loin d'être finie.
Si on devait ou on essayait de la résumer en quelques mots, c'est peut-être un exercice difficile, mais qu'est-ce que cette théorie énonce ?
Alors, cette théorie énonce au début des choses comme vous avez un fil et dessus, vous passez du signal, vous passez des voltages, il y a du bruit dans ce fil. Combien vous pouvez passer de bits un par un ?
Donc, bit, c'est l'unité de mesure.
L'unité
0,1,
c'est l'unité d'information minimale. Combien
binary
vous pouvez
digit.
En passer par seconde en fonction du bruit. Et en fait, c'est l'idée initiale. Après, c'est Internet utilise à fond la théorie de l'information. Quelle est la meilleure façon de transférer de l'information ? Mais ça pose aussi une question fondamentale, c'est quoi l'information en relation avec la physique ? Cette notion a été un peu connue en physique sous le nom d'entropie, mais c'est pas la même chose tout à fait. Et donc voilà, c'était comment communiquer le mieux possible étant donné un canal de communication. Mais cette théorie s'applique à énormément d'autres choses, y compris aux vivants.
Pierre Mounier-Kuhn, sans Claude Shannon, donc pas d'univers des communications tel qu'on le connaît aujourd'hui, pas de téléphone portable.
Oui, on peut dire ça, bien sûr. Cela dit, il y a d'autres gens qui travaillaient sur ces problèmes, notamment dans le milieu des télécommunications, pas dans le milieu du calcul, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie aussi. Mais il se trouve que Shannon, tout à fait à juste titre, représente, incarne aujourd'hui cette théorie fondamentale qui est la théorie de l'information.
Lui aussi, c'est un ingénieur. Est-ce qu'on retrouve les traits psychologiques que vous décriviez à propos de Turing? Je veux dire par là le fait qu'il ne courait pas spécialement après le succès, que c'était quelqu'un de plutôt discret.
Oui, c'est pas quelqu'un qui était à la fois un grand scientifique et un grand mondain, ami des banquiers comme était von Neumann, qui était aussi du dernier bien avec les états-majors militaires américains. Shannon, c'est vraiment quelqu'un qui faisait son métier d'ingénieur des télécoms et d'enseignant au MIT. Avec Jérôme Wiesner, dont vous avez passé une interview tout à l'heure, c'était très émouvant d'entendre Jérôme Wiesner, qui est un des grands entrepreneurs de science derrière cette aventure.
Vous êtes sur France Culture à l'écoute de notre série consacrée à l'informatique. Aujourd'hui, nous retraçons quelques-unes des grandes étapes de son histoire en compagnie de Gérard Berry et de l'historien Pierre Mounier-Kuhn. On a vu dans le début de cette émission qu'entre les années 30 et les années 60 se construisaient les fondements théoriques de l'informatique moderne et les prémices des premières machines. Les premiers ordinateurs, cependant, Gérard Berry, ont été conçus par des mathématiciens, et par des ingénieurs pour faire des mathématiques et de l'ingénierie. Ça va toujours de pair, en fait, ces deux domaines.
Il y avait des objectifs, c'était de faire des calculs précis. Donc, de toute façon, il y avait des calculs liés à l'atome, ça qui était absolument clair. Par exemple, le plan calcul en France a été explicitement conçu pour la bombe atomique française, il n'y a pas de mystère. Et oui, c'était toujours comme ça. Mais au début, c'était très balbutiant, les machines étaient minuscules. Enfin, pas physiquement. L'ENIAC, première machine, 16 000 lampes à vide, 7 minutes de temps de fonctionnement sans panne. Enfin non, c'est pas ça. On l'arrête au bout de 7 minutes pour changer un certain nombre de lampes. Et c'était une puissance totalement ridicule par rapport à quoi que ce soit qui existe maintenant.
L'ENIAC, donc il faut peut-être expliquer, Pierre Mounier-Kuhn, de quoi il s'agit, c'est quoi cette machine?
L'ENIAC a longtemps été considéré comme le premier grand calculateur électronique de l'histoire. Il a été développé aux États-Unis, à Philadelphie, entre 1943 et 1945, pour faire des calculs balistiques. Gérard Berry a raison de dire que par rapport à nos téléphones portables, ces machines étaient grotesques, mais à l'époque, elles permettaient d'attaquer des problèmes qui étaient absolument insolubles autrement. Donc c'était des bons en avant absolument fantastiques. Et même si ces machines nous paraissent peu fiables, peu puissantes par rapport à nos critères d'aujourd'hui, il faut se replacer dans l'époque pour voir quel progrès gigantesque elles permettaient. Par exemple, pourquoi ça intéressait von Neumann? Parce que von Neumann, lui, voulait faire des calculs de mécanique des fluides appliqués à la fois à la bombe atomique, les calculs d'ondes de choc, et plus tard à la météorologie, qui avait un intérêt civil, agricole, etc., mais aussi un grand intérêt militaire. On est toujours dans cette perspective de la deuxième guerre mondiale, puis de la guerre froide.
Et le tout premier ordinateur, du coup, on peut l'identifier, ce serait cet ENIAC ?
On se dispute. Là, je reviens d'un séminaire de 3 jours en Allemagne où on a beaucoup discuté de ce point en comparant l'ENIAC, Colossus, d'autres machines. Officiellement, le premier programme d'ordinateur a tourné sur une maquette à l'université de Manchester en 1948. Le premier ordinateur opérationnel pour faire des vrais calculs a tourné un an après à l'université de Cambridge, également en Angleterre. Et c'est seulement après qu'on voit apparaître, qu'on voit mettre en fonctionnement les premiers ordinateurs aux États-Unis et en URSS en 1950.
Dans ces tout premiers temps de l'industrie informatique, une firme semble se détacher. Il s'agit d'IBM, encore existante aujourd'hui. Elle est née dès les années 40, Pierre Mounier-Kuhn ?
Non, elle est née beaucoup plus tôt. Dès que les ordinateurs ont été mis en service dans des laboratoires universitaires, car les premiers ordinateurs ont été construits dans des universités par la recherche publique, certaines entreprises s'y sont intéressées. Il y avait des grandes entreprises de mécanographie qui travaillaient pour la comptabilité, le traitement de l'information, comme IBM. Il y avait des entreprises de construction électrique, comme Ferranti, General Electric et d'autres. Et il y avait des start-up assez nombreuses, créées dès la fin des années 40, avec pour vocation de faire des ordinateurs. En général, ces start-up étaient créées par des gens qui avaient participé à des prototypes d'ordinateurs dans des universités et qui ensuite essaimaient pour créer leur boîte. Sur IBM, c'est intéressant de constater qu'IBM en fait est né à la fin du 19e siècle avec des machines pour traiter les recensements américains, russes, français, etc. En 1951, elle a sorti son premier ordinateur. IBM a très vite parié que l'ordinateur, c'était son avenir. Et on parle de révolution informatique, mais en fait, le résultat de cette révolution informatique, c'est IBM non seulement est resté le premier constructeur de machines de traitement de l'information au monde, mais c'est encore renforcé. Alors qu'est-ce que c'est qu'une révolution qui confirme et renforce la puissance dominante ?
Et dans les années 70, on assiste au lancement d'une progression un peu effrénée qui va plus s'arrêter selon une loi de l'industrie informatique qu'on appelle la loi de Moore. Gérard Véry, est-ce que vous pouvez nous en rappeler
oui.
le principe ?
Gordon Moore était le créateur d'Intel. Il avait constaté que, en gros, le nombre de composants qu'on pouvait mettre sur un circuit ou même sur une carte au début doublait tous les un certain temps, 18 mois ou 2 ans. Et donc, il a fait la prédiction que ça continuerait. Alors, les gens pensent que c'est une loi de la physique. C'est pas du tout ça. C'est une décision industrielle. À partir de la création, en particulier des premiers circuits intégrés, donc bien après la première version de la loi de Moore. L'industrie s'est organisée pour ça. Donc les premiers circuits faisaient quelques milliers de transistors. Ils en font à l'heure actuelle quelques milliards. Ça commence à avoir de grosses difficultés. L'industrie a dit qu'elle ne la suivrait plus pour des raisons économiques. Ça fait 30 ans qu'on entend la loi de Moore, ça va s'arrêter à cause de la physique. C'est pas du tout si simple. C'est l'économie. Donc cette loi a tout changé.
La loi énonce précisément, et vous me corrigez si je me trompe, que le nombre de transistors par unité de surface d'un circuit double tous les 18 à 24 mois.
C'est ça. Ça variait, parce qu'au début, Gordon Moore avait établi en 1965 que ça doublait tous les ans. Ensuite, il est passé à 18 mois ou à 2 ans. Ça montre bien que c'est pas du tout une loi physique, comme le disait Gérard. C'est une loi économique et c'est une loi qui a été construite historiquement par l'industrie des puces, par l'industrie des semi-conducteurs. Chaque année, les patrons, les ingénieurs en chef des grandes firmes de semi-conducteurs se réunissent pour établir ce qu'on appelle une roadmap, pour planifier des objectifs à court, moyen et long terme et décider quel sera le niveau d'intégration dans 18 mois ou dans 2 ans. En d'autres termes, la loi de Moore, c'est un parfait exemple de planification capitaliste.
Pardon pour ces questions de néophyte, mais on parle de puce, on parle de transistor. Un transistor, c'est quoi exactement ?
Alors, il y a plusieurs sortes de transistors, mais ceux qu'on utilise en informatique, ce sont des interrupteurs. Ça passe ou ça passe pas, le courant. Et le calcul, un très ancien calcul de Boole dans les années 1850, qui a résolu beaucoup de problèmes de logique avec, c'est le calcul de vrai, faux et ou non. Eh bien, ce calcul est universel, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer tout à partir de ce calcul. On peut fabriquer essentiellement une machine de Turing ou n'importe quel ordinateur peut être fabriqué à partir de ce calcul. Donc, un circuit électronique, c'est un assemblage de transistors très nombreux dont l'organisation est extrêmement scientifique et extrêmement ingénierique aussi et qui permet de faire tous les calculs qu'on veut. Et donc, c'est ça, un circuit.
Et une puce ?
Et une puce, ah ben la puce chip, c'est le morceau de silicium sur lequel on implémente le circuit qui va faire, mettons, 1 cm², par exemple, avec quelques milliards de transistors dedans. Et ça, c'est ce que vous achetez, c'est ce qu'il y a au milieu de votre ordinateur ou dans votre carte bleue.
Dans les années 70, on assiste à une nouvelle révolution, l'invention de ce qu'on appelle le mini-ordinateur. C'est quoi le mini-ordinateur, Gérard?
Mais, comme son nom l'indique, c'est un ordinateur petit, c'est-à-dire en gros la taille d'une entre une machine à laver et quelques armoires, mais surtout qui est à un prix raisonnable et qu'on peut mettre dans un laboratoire au lieu de le mettre dans un grand immeuble. Et le mini-ordinateur change tout parce que eh bien justement, on peut expérimenter avec. C'est pas une machine lourde avec un centre de calcul sur lequel il faut amener les cartes perforées et attendre la fin. Donc les chercheurs se sont rués sur les mini-ordinateurs, l'industrie aussi, mais ça a surtout bouleversé la recherche puisque ça rendait l'informatique et des expérimentations totalement nouvelles faisables à l'échelle d'un laboratoire, et ça a provoqué une imagination fantastique chez les chercheurs, les ingénieurs, etc.
Steve Jobs a passé son enfance et son adolescence à faire des expériences d'électronique chez lui.
Généralement, les gens qui bidouillent comme ça voient d'un mauvais œil les technologies qu'on leur impose. Mais d'un bon œil, celles dont ils arrivent à faire ce qu'ils veulent.
Alors qu'il est encore collégien, Steve Jobs travaille sur une chaîne d'assemblage chez Hewlett-Packard. À la même époque, il se lie d'amitié avec Steve Wozniak.
On parlait électronique. Moi, j'avais conçu des ordinateurs. Et lui, il avait bossé chez Hewlett-Packard et avait construit un fréquence-mètre. On s'est tout de suite bien entendu.
Malgré son côté hippie, Steve Jobs est un requin en affaires. Il a à peine 20 ans quand la toute jeune société Atari pour laquelle il travaille le charge de développer un jeu de casse-briques en 4 jours. Il demande de l'aide à son ami.
Il avait dit qu'on ferait 50-50, mais ça ne s'est pas passé comme ça.
Wozniak travaille nuit et jour pour livrer la commande à temps. Mais il découvrira plus tard que son ami lui a versé bien moins de la moitié de la somme qu'il avait perçue. En 1977, Apple décolle vraiment grâce à la commercialisation d'un nouvel ordinateur conçu par Wozniak. L'Apple II est le premier PC avec une carte graphique couleur. En 3 ans, les ventes de l'Apple II rapportent plus de 150 millions de dollars à la société. L'ère du PC est née et Apple est à la pointe de cette nouvelle industrie.
À l'instant, un extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur la BBC peu après la disparition de Steve Jobs, le fondateur d'Apple en 2011. Ce documentaire s'appelait Billion Dollar Hippie, le hippie millionnaire. On y entend à la fois la rivalité légendaire avec l'autre Steve, son associé, l'ingénieur Steve Wozniak, et puis la date marquante de 1977, le lancement d'Apple II. Impossible dans cette histoire de ne pas parler du rôle de cette entreprise Apple, Pierre Mounier-Kuhn. C'est le premier ordinateur personnel, ce serait juste de le
pas
dire comme
tout,
ça.
Pas du tout, je reviendrai éventuellement
corrigez-moi.
Là-dessus. Corrigez-moi. Oui, oui. Apple peut-être Apple n'est certainement pas l'inventeur du micro-ordinateur qui a été inventé en 1973 par une société française. En revanche, on peut considérer qu'Apple a inventé la micro-informatique, c'est-à-dire toute une culture, de nouveaux modes d'usage, une nouvelle façon de présenter les ordinateurs, une façon aussi de se poser en s'opposant aux géants qui étaient à l'époque IBM, et une façon d'expliquer que l'ordinateur pouvait être autre chose qu'un truc sinistre pour les cadres des entreprises, mais pouvait être ludique et pouvait devenir un outil de travail, de production et d'invention pour tout le monde dans des conditions ludiques, avec une interaction homme-machine qui ressemblait à un jeu. C'est l'invention des icônes, l'utilisation de la souris pour cliquer, au lieu de... ça vient du SRI. Là aussi,
c'est
la
après,
souris...
C'est après, c'est
la souris...
Gérard Berry hoche la tête d'un air réprobateur.
Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de l'interaction avec ce grand centre d'invention qu'avait été le Xerox PARC avant et la source de ces innovations qu'était le Stanford Research Institute. Une fois de plus, tout vient de la science. Tout vient au départ, tout prend racine dans les laboratoires de recherche universitaires.
Ce qui est peut-être
mais Apple en a fait quelque chose. Apple a fait débouler ses inventions sur le marché, les a mises en forme. On a fait aussi des objets esthétiques, c'est très important. Elle n'était pas la seule. Olivetti avait fait la même chose. Olivetti avait 20 ans avant la même politique en Europe. de faire des machines intéressantes, intelligentes et belles. Et Apple a vraiment très bien réussi. Et maintenant, Apple est passé depuis une quinzaine d'années d'une firme innovante, marginale, qui avait un succès d'estime, à ce qui a été l'année dernière la plus forte capitalisation boursière de toute l'histoire de l'industrie.
Quel était le rôle à l'époque de l'entreprise Atari ?
Alors Atari était une entreprise qui fabriquait des microprocesseurs et qui était très orientée sur le jeu et les performances graphiques. Et le jeu a été vraiment très important parce que c'est ça qui a attiré les jeunes dans le domaine. Avant, c'était plutôt pas un domaine de jeunes, l'informatique, et c'est ça qui a attiré les jeunes. Atari a été très important aussi pour les logiciels, c'est-à-dire que c'est l'époque où le logiciel est devenu très important et Apple a compris ça. C'est-à-dire que Apple a rapidement dit les logiciels, c'est vraiment important. Et la date dont on a parlé, parce qu'il y a eu une petite confusion temporelle, la souris, l'écran graphique et tout, ça vient des laboratoires de Xerox PARC. Et il y avait par exemple Chuck Sacker qui avait construit une machine qui s'appelait l'Alto, qui ressemble furieusement au Macintosh, avec un réseau, avec de la puissance de calcul locale, avec un disque local, c'était la première. Mais Xerox était une société de photocopie qui a jamais compris qu'ils avaient inventé un truc prodigieux. Jamais. Et donc ils sont tous partis pour aller chez Steve Jobs en particulier, mais pas que. Et c'est le Macintosh qui a vraiment fait. Pour moi, ça a été le début de l'informatique, la vraie. Et j'ai vu ça parce que moi, j'ai toujours bien aimé les Mickey quand j'étais petit. Et j'ai vu pour la première fois une démonstration sur l'Alto, puis sur le Macintosh, de quelqu'un qui plantait un pinceau dans une peinture à damier et qui peignait un damier sur le mur avec son pinceau à damier. Et je voyais ça dans les Mickey et je me disais, ça c'est le comble de l'impossible. Et en fait, eh ben voilà, ça tombait sous mes yeux, c'était devenu possible, même si c'était virtuel. Et je me suis dit, là, le monde a changé.
Ça, c'était Mac Paint, hein, c'est ça?
Ça, c'était Mac Paint, mais ça venait de. Ça existait déjà chez Xerox. Mais ce qui a eu génial, c'était le packaging du Macintosh. Je vous rappelle que le Macintosh, c'est une machine, les premiers qui ont perdu énormément d'argent, qui était très difficile à utiliser, ça tombait tout le temps en rade et tout, mais ça a révolutionné le monde. Et tous les ordinateurs modernes sont sortis de là. Tous ont adopté les mêmes principes.
Il faut dire que le Macintosh, donc, c'est 1984, et il y a une certaine ironie à ce que ce soit cette date-là, quand on pense au roman d'Orwell, bien sûr. Je crois que Apple avait joué d'ailleurs sur une publicité où il faisait référence.
La célèbre publicité très orientée anti-IBM, où il expliquait que 1984 ne sera pas comme 1984, comme le livre.
Gérard Berry, on en arrive à la fin de notre parcours, mais il serait embêtant de ne pas mentionner une révolution absolument capitale, évidemment, dans cette histoire. C'est l'invention d'Internet, c'est l'ouverture en fait de l'histoire en train de se faire. Ça remonte à quand ?
Ben, l'invention d'Internet remonte aux années 80, même avant. Elle avait été préparée par ARPANET aux États-Unis, qui était un réseau de recherche, mais qui avait été fait pour sécuriser les informations militaires au départ. Mais l'idée, c'était, il y avait plein de réseaux différents. L'idée, c'était d'avoir un seul réseau pour l'intégralité du monde. Alors, je vous raconte pas toute l'histoire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est, il y a une grande étape. On avait Internet dans la recherche, mais une grande étape, c'est l'invention du web et la mise en service du web dans le monde entier. Donc, le web inventé au CERN par des physiciens et mise en service dans le monde entier en 93-94. C'est très proche, mais on a complètement oublié que ça n'existait pas. Je voudrais rappeler le mot d'une petite fille qui a demandé à sa mère de 10 ans, qui a demandé à sa mère, « Maman, il y a un truc que je comprends pas. Tu m'as dit que quand t'étais petite, t'avais pas d'ordinateur. Alors, comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» Internet a explosé littéralement. Il faut comprendre les volumes à l'heure actuelle. Il s'est produit plus de données les deux dernières années que depuis l'histoire de l'humanité avant. Donc ça, c'est le déluge de données, on en reparlera. Et autre chose, il s'est fabriqué, en 2016, il va se fabriquer 80 milliards de microprocesseurs, soit 10 par personne dans l'année, dont la plupart sont dans les objets. Et Internet va connecter bientôt plus d'objets que d'hommes. Tout ça, ça illustre vraiment la révolution en train de se faire.
Est-ce qu'on peut attribuer l'invention d'Internet à une personne en particulier ou à une industrie ? Est-ce que c'est possible d'identifier le créateur, Pierre Mouniécune ?
Non, parce que les historiens préfèrent parler de l'histoire des réseaux numériques, pour ne pas se focaliser sur l'aboutissement actuel qui est Internet. Mais on préfère examiner toute la variété de solutions numériques qui ont été inventées aux besoins de réseaux depuis les années 50. Il y a eu d'abord, les premiers réseaux numériques ont été des réseaux de surveillance de l'espace aérien, des réseaux de défense pour surveiller l'arrivée de bombardiers soviétiques. Ensuite, vous avez eu des réseaux qui ont été constitués pour des sociétés d'assurance, pour les chemins de fer, etc., des réseaux de données. Et puis, dans les années 70, on a vu se constituer des grands réseaux universels à partir de l'américain ARPANET, ça aboutit à Internet. Et en France, il y a eu un réseau de type ARPANET qui s'appelait Cyclade, mais on a surtout développé le réseau qui est connu à travers le Minitel, le réseau Transpac, qui était le premier réseau numérique accessible à des millions d'utilisateurs. Donc, du point de vue technique, Transpac, Minitel, c'est fini, c'est au musée. Mais du point de vue de la formation, de la familiarisation de millions d'utilisateurs avec des réseaux numériques et du point de vue du développement d'usage, de logiciels, d'applications, le Minitel a eu un rôle considérable. Donc, on a une controverse avec Gérard Berry, que Gérard va dire pourquoi il n'est pas d'accord.
Oui, Gérard Berry, parce que le Minitel, vous vous dites, ça relève des télécommunications, ce n'est pas un événement révolutionnaire.
Mais le Minitel, ce n'est pas un ordinateur, tout simplement. Donc, avec un Minitel, on peut faire que du Minitel. Avec un ordinateur, on peut faire beaucoup de choses et se connecter à d'autres ordinateurs qui font d'autres choses. Donc, le Minitel est un outil de consommation pure. L'ordinateur est aussi un outil de création. Et puis le Minitel n'a pas suivi l'évolution, il n'y a pas d'écran graphique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Enfin, il y en a eu un peu, mais... voilà, donc le Minitel était un objet de télécom, et on pouvait se connecter à des ordinateurs, mais on ne pouvait pas avoir un ordinateur pour se connecter sur le Minitel. Donc c'est fondamentalement différent comme objet.
Une toute dernière question, Pierre Mouniécune. Dans cette histoire, vous vouliez insister sur une dimension actuelle qui concerne la patrimonialisation, oui. On pourrait dire, de l'informatique.
Et c'est un enjeu important parce qu'il touche à la capacité d'innovation d'un pays. La capacité d'innovation d'une collectivité ou d'un pays est étroitement liée à sa culture scientifique et technique, qui n'est pas seulement le savoir qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, c'est aussi le prestige qu'on donne aux inventeurs, aux innovateurs. C'est aussi la reconnaissance. Là, on parlait de Turing, qui a une reconnaissance tardive mais considérable parce qu'il est devenu un héros britannique à l'égal des pilotes de Spitfires de la bataille d'Angleterre. En Allemagne, Konrad Zuse, qui est un autre inventeur de l'ordinateur, est devenu un héros national. Et il se trouve que j'ai connu interviewé Zuse, j'ai connu interviewé Wilkes, qui est aussi un héros britannique. En France, on a un manque stupéfiant de reconnaissance envers les innovateurs. J'étais la semaine dernière en Allemagne, donc pour un séminaire, j'ai visité deux musées de l'informatique absolument superbes. En France, on est le seul pays développé, le seul pays industriel du monde à ne pas avoir le moindre musée de l'informatique. Songez que l'inventeur français du micro-ordinateur en 1973, François Jernel, n'a même pas la Légion d'honneur. On fait des expositions, on a un patrimoine, on a de très belles collections, la CONIT à Grenoble, la Fédération des équipes Bull et d'autres, des bénévoles qui font un travail magnifique de restauration. On a depuis 3 ans concocté un projet de musée de l'informatique en France. Ça n'a absolument pas intéressé les pouvoirs publics.
Du moins, l'informatique a-t-elle fait son entrée au Collège de France malgré tout, à travers la chaire que vous dirigez, Gérard Berry.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium. J'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se...
On se quitte au son du groupe Chanson Plus Bifluoré qui chante l'informatique. Merci beaucoup Gérard Berry et merci à vous Pierre Mouniécune. Pour aller plus loin, je renvoie nos auditeurs donc à votre livre, hein, L'histoire illustrée de l'informatique, qui est paru cette année aux éditions EDP Sciences. Cette référence et d'autres seront à retrouver sur le site de France Culture, à la page de l'émission, où vous pourrez aussi la réécouter et vous abonner à son podcast. La semaine prochaine, nous poursuivons notre parcours informatique. Avec vous, Gérard Berry, nous parlerons de la science des données, des big data à l'intelligence artificielle avec le mathématicien l'informaticien Stéphane Mala. Cette émission est réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie, dont le prochain numéro en kiosque sortira dans quelques jours et il est consacré à la vie extraterrestre.
En rondelle, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, utilitaire.
C'était Les Passeurs de Science, l'informatique, une émission proposée par Mathilde Wagman et réalisée par Assia Khalid, avec aujourd'hui à la technique Olivier Dupré.
Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps?
J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit:
je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer.
Hélas, ma machine est en panne.
Galère.
Quand je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc,
ouais.
Le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué,
pas
le
dur.
Modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche et les buses qui abusent,
oh,
les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, c'est des ROM, c'est tout comme
oh.
La mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros,
oh.
Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, l'usicone qui déconne, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur et ta sœur.
En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, l'MS-DOS qui a des bosses, les menus mal foutus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens, c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.